C'est avec le cantique des cantiques que nous entrons dans la liturgie aujourd'hui. Et cela peut nous surprendre, ce passage par le cantique, qui est un livre évidemment qu'on souvent on le connaît peu, mais surtout on était dans des ouvrages qui nous parlaient de prophétie. Et là, le cantique des cantiques peut nous sembler arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, vous savez peut-être que le cantique des cantiques est un livre très particulier dans l'Écriture sainte. Sa particularité, c'est que il y a donc énormément d'apax dans ce texte. Donc, un apax, je le redis, c'est un mot qui est employé une seule fois dans l'Écriture sainte. Et le problème, c'est que quand un mot est employé une seule fois, eh bien, on a beaucoup de mal à en trouver le sens, puisqu'on n'a pas de lieu pour voir le sens que le mot pourrait avoir. Donc ce sont des traductions difficiles, parfois un peu hésitantes, même si nous avons un texte tout à fait comestible, mais quand même. Alors pour ma part, en commençant ce passage, j'ai immédiatement été renvoyé à ce que je vous disais le 17, où nous parlions de Genèse 49. Et je vous avais dit que le Targum sur Genèse 49 avait des accents du cantique. Et alors de fait, dans le Targum du Pentateuque, que j'ai mentionné antérieurement, on trouve en Genèse 49:11 qu'il est beau le roi Messie qui doit surgir d'entre ceux de la maison de Juda, qu'ils sont beaux les yeux du roi Messie, ses dents sont plus blanches que le lait. Et alors, ça vous fait peut-être pas penser au cantique des cantiques, parce que si on le connaît pas, on n'y pense pas forcément, mais c'est assez bouleversant de voir comme ce roi Messie est immédiatement identifié à l'époux du cantique. Alors, question qui peut se poser pour nous, c'est que dans ce cantique, nous lisons une invitation, hein, plusieurs verbes impératifs qui s'adressent à quelqu'un. Alors, c'est une invitation de qui pour qui ? Eh bien, en fait, c'est l'époux qui invite son ami, sa bien-aimée, son épouse. Et donc, cela a beaucoup d'échos divers et variés. À la fois, ça peut être un écho à l'égard de la Vierge Marie, qui est l'épouse inépousée, comme dit l'hymne acatiste chez les orthodoxes. Et c'est aussi le peuple de Dieu qui va recevoir son Messie. Et puis ultérieurement, c'est aussi chacun de nous qui sommes invités à entrer dans cette relation. Et là, nous découvrons que le mystère de l'incarnation, ben, c'est pas Noël, quoi. C'est devenu Noël, mais c'est quoi Noël au fond ? Et c'est ce mystère de la visitation de Dieu dans son peuple pour prendre chair dans son peuple et donc dans le Fils. Dieu reçoit, prend une deuxième nature. Il était Dieu, il est toujours Dieu. Et maintenant, dans le Fils, il y a une nature humaine. Alors, fort de l'élan qui a été le mien cette semaine sur le cantique des cantiques, sur les targoums, j'ai été regarder le targoum du cantique des cantiques. Donc, c'est relativement accessible, hein, vous devez pouvoir trouver ça assez facilement. Sur Internet, il est en disposition libre. le Targum du Cantique des Cantiques. Voilà. Alors on vous explique ce que c'est qu'un Targum. C'est le frère Mans qui a traduit ce passage. Et donc nous allons immédiatement au verset qui nous intéresse. Hein. Les versets donc 8. Et là nous découvrons quelque chose d'assez intéressant. Donc, voix de mon bien-aimé, le voici qui vient franchissant les montagnes, etc. Et le Targum dit, Salomon dit, quand le peuple de la maison d'Israël habitait en Égypte, leurs cris montèrent au haut du ciel. Alors la gloire du Seigneur fut révélée à Moïse sur le mont Horeb. Et elle, la gloire du Seigneur, envoya en Égypte pour les racheter et les retirer de l'oppression des Égyptiens. Et le temps fixé fut abrégé à cause du mérite des pères qui sont comparés aux montagnes. Alors, vous voyez ce rapprochement de la visite qui est décrite dans le Cantique du Cantique, de la visite de Dieu à son peuple en Égypte. Au verset 9e, nous lisons « Mon bien-aimé, semblable à une gazelle, un fond de bien. Le voici derrière notre mur, il regarde par les fenêtres, il guette à travers les barreaux. » Et voilà ce que dit le Targum, l'Assemblée d'Israël dit « Lorsque la gloire du Seigneur fut révélée en Égypte, la nuit de Pâques, et qu'il fit mourir tous les premiers-nés, il chevauchait sur une nuée légère, et courait comme une gazelle, comme un faon de biche. Et protégeant les maisons dans lesquelles nous demeurions, il veillait derrière nos murs, et regardait par les fenêtres, et jetait un regard à travers les barreaux. » Voilà, donc vous voyez, bon, j'arrête là, on ne va pas lire tout le Targum, mais ceci nous montre que cette naissance est déjà une sortie d'esclavage. C'est déjà une invitation pour nous à la conversion. Alors ça peut être inattendu, parce que la lecture du cantique, on pourrait penser, voilà, célèbre des amours, mais oui, Dieu n'est pas venu parce qu'il n'avait rien à faire, Dieu descend parce qu'il nous aime, et qu'il veut que nous ayons part à son bonheur. Donc il se fait l'un de nous. Évidemment, c'est aussi l'invitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Verbe de Dieu à l'âme. Et ce passage, vous pouvez le méditer si vous faites raison, même si c'est une courte raison. Vous savez, 5 minutes, c'est considérablement plus que rien du tout. Hein. En base 10, quelque chose par 0, ça fait pas grand-chose. Donc voilà, 5 minutes, c'est énorme quand on ne fait rien, quand on n'a pas le temps de faire. Chacun fait ce qu'il peut. Hein. Voilà. Donc, méditez cette invitation de l'âme par son Dieu, qui l'invite à se laisser habiter par lui. Et c'est singulièrement explicite dans la grotte où Dieu vient habiter parmi nous, en Marie, où Dieu est venu habiter. Comme dans la tente du témoignage où Dieu venait habiter, couvrir cette tente. Voilà, et quand la présence est là, on ne peut plus rien faire. Ça parle beaucoup de l'oraison hein, et de l'âme, enfin non pas qu'il y ait des transports dans l'oraison, enfin, vous en avez peut-être, hein, c'est tant mieux pour vous d'ailleurs. La sainteté, c'est singulier. Mais voilà, ça nous montre qu'il peut y avoir des moments où nous ne sommes plus capables de bouger, de faire grand-chose. Alors on peut se dire, ouais, botte-toi le train, ça va. Ouais, à moins que ce soit Dieu qui opère. Et peut-être il faut cette délicatesse d'âme d'être présent à sa présence. Et ceci nous amène à l'évangile, cette présence de Dieu. Donc nous avons l'évangile de la visitation, le début, qui nous est bien connu, qui est... Alors, moi, je trouve ça assez bouleversant, quand même. C'est la visite du Seigneur, là aussi. Vous voyez, c'est comme dans le Cantique, comme dans le Targum que je vous ai lu. Le Seigneur vient visiter qui ? Élisabeth. Élisabeth, en hébreu, ça veut dire maison de Dieu. Voilà. En syriaque, c'est un nom de fleur, Élishua. Mais voilà, là c'est le Seigneur vient visiter. Et comment vient-il visiter ? C'est très intéressant. Eh bien, il vient visiter caché dans une femme, la Vierge Marie. Vous voyez toute l'importance de l'attention aux signes. Jésus peut venir nous visiter caché dans quelqu'un, caché dans un événement, sans se montrer. Et là, en fait, Marie, on nous dit trois choses sur Marie qui sont pas banales. Elle se hâte, elle entre, elle salue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est exactement ce que l'ange Gabriel a fait. L'ange a été envoyé. On peut imaginer qu'il était un peu pressé d'aller faire son annonce. Il entre chez Marie, nous dit le texte. Pas d'aujourd'hui, hein, le texte d'hier. Et il la salue. C'est très beau de voir que Marie reproduit exactement ce que l'ange a fait en venant visiter sa cousine. C'est assez beau, je trouve. Voyez, elle n'a pas cherché des choses extraordinaires. Immédiatement, elle est missionnaire, Marie. Dès qu'elle a reçu la visite de l'ange, elle part. On pourrait dire, elle aurait pu rester un peu, en parler à son mari Joseph, son fiancé Joseph. Elle aurait pu se recueillir, elle aurait pu kiffer son bonheur, comme dirait l'autre. Non, il n'y a aucun repli sur elle, sur son bonheur. C'est-à-dire qu'elle ne se trompe pas de bonheur. Le bonheur, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas l'effet de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et en fait, cette vie qu'il habite ne la laisse pas tranquille, si je puis dire. Et elle ne tient plus en place. Et alors, chez Élisabeth, il y a un tressaillement. Un tressaillement de la foi. Et Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Élisabeth. C'est extraordinaire quand même qu'un enfant qui n'a pas encore d'intelligence développée, dans le sein de sa mère, il n'a qu'une intelligence certes rationnelle, mais tabula rasa, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole, il ne sait pas parler, il ne sait pas réfléchir, il est complètement vierge de toute activité cérébrale, autant qu'on puisse le savoir, et tac, quelque chose qui se passe. Voyez. Cette sensibilité à la présence de Dieu, cet œil aguerri, affiné. Je trouve ça extraordinaire, parce que ça suppose un détachement de toutes nos imbécilités qui nous bouffent le cerveau, la mémoire, l'inquiétude, que sais-je. Enfin, voilà. Alors Jean-Baptiste, c'est sûr qu'il n'a rien à faire, hein, il n'a même pas, peut-être issu son pouce, on ne sait pas. Il est nourri, logé, tout va bien, quoi. C'est sûr que... Et Jésus aussi, du reste. Et donc, il y a ce tressaillement qui amène la foi. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a une question qui reste sans réponse. Hein. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Voilà. Et c'est assez curieux, parce qu'en fond, Élisabeth se réjouit de la venue de la mère de son Seigneur. Mais elle ne semble pas s'être réjouie de la présence du Seigneur. D'après le texte, hein, on ne peut pas... L'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Alors, pour Élisabeth, on pourrait penser que l'enfant a tressailli parce que... Parce qu'une femme venait d'arriver. Et en fait, Marie est indissociable de Jésus. Ce n'est pas une femme qui vient d'arriver. C'est cette femme que les générations entières attendent. C'est cette femme dont Jean-Baptiste va annoncer la venue du Fils. C'est complètement bouleversant, quoi, en fait. Et alors... Donc je dis que cette question reste en suspens. Et Et au fond, nous avons la réponse. Heureuse, celle qui a cru. Et ce qui est bouleversant, c'est que la foi de Marie se transmet. La foi de Marie, qui n'a pas douté du message de l'ange, qui, à l'instant même, a conçu du Saint-Esprit, qui porte donc en elle une vie. Sa foi irradie autour d'elle. Et j'imagine que si chacun de nous avait à l'instant une apparition de la Vierge Marie, on tomberait dans la foi. Je ne sais pas comment dire ça. Non pas qu'on n'ait pas un don de foi, mais on verrait la foi. En voyant Marie, on verrait la foi. Incarnation, la foi incarnée. La foi vraie, la foi réelle, la foi vécue, la foi qui se communique, la foi qui enthousiasme, la foi qui transporte. Voilà. Donc, nous pouvons célébrer aujourd'hui cette... Tout doucement, hein, surtout n'allons pas vite. N'allons pas vite. Le temps de l'avant est un temps d'attente et un temps qui ne va pas vite. C'est tellement important d'avoir bien le souci de marcher à rebours de notre temps. Non pas parce qu'il faudrait marcher au rebours du temps, hein, simplement parce que nous allons beaucoup trop. Nous allons beaucoup trop vite. Quand on va vite, il y a des accidents. Quand on va vite, on ne sent plus l'air. On ne sent plus les odeurs. On ne sent plus les parfums. On prend des photos au lieu de regarder des paysages. On ne sait plus vivre. On ne sait plus entendre. Elisabeth aurait pu imaginer autre chose qu'un tressaillement. Bon, je ne sais pas, il faut avoir l'expérience de porter un enfant. Voilà, elle a tout de suite perçu que c'était l'enfant qui avait tressailli, parce qu'elle est à l'écoute. Et donc voilà cette merveille qui nous prépare à entendre demain le Magnificat de la Vierge Marie. Alors ça, c'est encore une autre révélation à laquelle nous pouvons nous préparer.